Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les autorités redoutent énormément le week-end qui arrive là avec la chaleur. Les hôpitaux sont déjà saturés. Vous entendrez concrètement ce que ça veut dire à Rennes. La consommation d'alcool est interdite aujourd'hui à Paris pour éviter de faire gonfler les chiffres. Les collégiens passent le brevet à partir de ce matin. Épreuve adaptée cette année avec la chaleur. Plus de pauses, on sera à Toulouse. Et les Bleus rejouent à la Coupe du Monde. Dernier match de poule contre la Norvège avec encore des orages annoncés.
Est-ce que ce sera respecté cette fois? La consommation et la vente d'alcool sont interdites aujourd'hui à Paris.
Alors on se souvient que la même décision avait été prise pour la fête de la musique. Ça n'avait pas du tout été respecté le week-end dernier. Aujourd'hui, le préfet de police décide donc d'interdire la consommation d'alcool à partir de midi et la vente à partir de 18h en expliquant que l'alcool provoque des effets dévastateurs au soleil. On en pense quoi, tiens, sur les quais de Seine ce matin?
Moi, d'un point de vue personnel, j'avoue que ça m'embête un peu parce que ben, on va moins en profiter de notre week-end. Maintenant qu'on est au courant de l'information, ben, on va anticiper le coup. Alors, c'est vrai que c'est pour la sécurité de tout le monde.
Ça fait déjà 10 jours qu'on est dessus. C'est peut-être un peu tard pour réagir.
Je pense que dans tous les problèmes de chaleur, c'est pas l'alcool le vrai problème. C'est plutôt les politiques qui gèrent ça.
C'est une mesure qui est compréhensible pour éviter aussi de mobiliser trop les pompiers ou le SAMU. C'est vrai que la prendre à la fin, ce qu'on a l'impression être la fin de la vague de chaleur, c'est ça que j'ai un peu plus de mal à comprendre.
Alors je précise que la vente et la consommation d'alcool assis dans un bar ou au restaurant, donc ce soir par exemple pour le match des Bleus, eh bien cette consommation-là reste autorisée. Mais cette décision est prise car les hôpitaux sont déjà saturés à Paris, c'est ce que dit le préfet, et que le week-end sera compliqué dans les hôpitaux, c'est ce que dit la ministre de la Santé. C'est déjà le cas par endroit, comme ici à Rennes, nous explique le correspondant RMC Martin Lange.
Une salle d'attente pleine, la queue devant le guichet d'admission. Dès les premières heures de la journée, les urgences du CHU de Rennes sont prises d'assaut. Manon est aide-soignante.
Il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées. On a besoin de les hydrater en permanence. Tous les soins sont compliqués. Les soignants courent partout, il y a des brancards déjà partout à l'accueil. On ne sait plus par où commencer, quoi.
Devant les urgences, Kelly, ambulancière, enchaîne les allers-retours.
Une hausse des interventions, beaucoup, beaucoup de malaise. Les temps d'attente pour les transmissions aussi aux urgences sont beaucoup plus longs. C'est bien compliqué aussi à l'intérieur pour les brancards. On arrive parfois dans le SAS, il n'y a plus de brancards. C'est vraiment le bordel, c'est très compliqué pour tout le monde.
L'hôpital a activé son plan blanc, des interventions ont été déprogrammées et des personnels rappelés. Mais selon Nathalie Loinsard, infirmière et représentante du personnel, c'est tout l'hôpital qui est en surchauffe.
Il fait 36-40 degrés, et même dans les chambres. On doit faire comme on peut, avec des draps sur les fenêtres, avec des couvertures de survie, avec des ventilateurs qu'on met à droite, à gauche. Jamais on a travaillé dans ces conditions-là.
D'ailleurs, hier, des soignants des services de gériatrie et de neurologie ont fait valoir leur droit de retrait en traitant seulement les urgences vital.
Et c'est dans ce contexte que 850 000 élèves se lanceront à partir de 9h, là ce matin, dans les épreuves du brevet des collèges. C'est le français aujourd'hui. Un brevet nouvelle formule, avec moins de contrôle continu, mais surtout un brevet sous canicule. Le ministre de l'Éducation promet d'ailleurs davantage de pauses pendant les épreuves. Concrètement, écoutez comment ça va se passer dans le collège de Pierre Labeste. Il est principal à Toulouse.
On a priorisé toutes les salles qui sont équipées par le conseil départemental de ventilateurs. Les invités à venir en tenue la plus légère possible pour ne pas souffrir de la chaleur. D'avoir une gourde, c'est vivement conseillé. Mais au besoin, voilà, on a prévu, voilà, dans nos frigidaires sont pleins de bouteilles d'eau qui, ben, je l'espère, trouveront un bon usage dans le courant de cette première épreuve de français.
Et alors, près de Tarbes, les élèves d'un petit collège vont passer le brevet ce matin dans un monastère. Tout a été délocalisé dans ce monastère pour profiter de la fraîcheur, dit la préfecture. Et on apprend, tiens d'ailleurs, ce matin que EDF va débloquer 80 millions d'euros pour équiper rapidement tous les établissements scolaires de solutions de rafraîchissement.
Et notez, mon invité à 8h30, ce sera Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Les hôpitaux qui sont saturés. Appelez-nous surtout au 3216, appelez-nous pour témoigner. Vous êtes peut-être prof, vous allez surveiller aujourd'hui le brevet, dans quelles conditions. Vous êtes parent, appelez-nous également pour nous dire si ça contribue à stresser davantage votre enfant. Et puis si vous êtes médecin, si vous êtes infirmier, appelez-nous aussi pour nous dire si ça tient effectivement face aux afflux de patients. Le 32-16 vous est ouvert.
Alors la réponse politique à ça, eh bien il y aura une nouvelle réunion de crise interministérielle cet après-midi 16h. Emmanuel Macron salue le gros travail d'adaptation qui a été fait tous ces derniers jours. Et Sébastien Lecornu adresse une lettre aux maires pour les remercier et défendre l'action de l'État. Une des actions, justement, Romain Houk pour RMC, eh bien, c'est de mobiliser les facteurs pour rendre visite aux personnes âgées.
Oui, ce sont 40 000 employés de la Poste qui vont être déployés dans le cadre de ce dispositif. Concrètement, ces agents vont sonner chez les personnes vulnérables, les personnes isolées, souvent âgées, pour s'assurer qu'elles ne souffrent pas trop de la chaleur ou ne sont pas en situation de détresse. Très bonne idée, dit Stéphane Chevet, il est représentant CFDT à la Poste.
Je trouve que c'est plutôt intelligent de le faire, d'autant plus que beaucoup de seniors se retrouvent dans des situations d'isolement social. Donc le fait d'avoir une visite du facteur fait en sorte que cet isolement soit rompu au moins quelques instants dans leur journée.
Et si jamais le facteur n'obtient pas de réponse après plusieurs coups de sonnette, alors il devra interroger les voisins et contacter les secours si besoin. Et là, on outrepasse les compétences des facteurs, assure Olivier Roset de la Fédération Sud PTT.
Ça n'est pas à nous à faire ce travail. On n'est pas des professionnels du médico-social, ça ne peut pas marcher.
Sébastien Lecornu l'assure, ce dispositif ne doit pas remplacer l'action des professionnels de santé, mais simplement la compléter.
On en parlait hier matin à cette heure-là. Je vous signale que la piste de l'agression pour un motif racial est écartée à Narbonne après la mort d'un jeune de 17 ans qui a été tabassé à mort par 5 autres jeunes, dont 3 mineurs, en fin de semaine dernière. Ça, c'est le premier gros week-end de l'été sur la route. La journée est classée orange au niveau national et même rouge dans tout le nord-ouest. Pour ceux qui vont d'ailleurs vers la Méditerranée, c'est une des conséquences de la canicule. La température de l'eau a pris 7 degrés en 7 jours à Marseille. C'est ce que relève ce matin le journal La Provence.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
On redoute encore les orages aujourd'hui à la Coupe du Monde. Temps orageux qui est annoncé à Boston où les Bleus joueront ce soir leur troisième et dernier match de poule contre la Norvège. On se souvient tous du match à rallonge en début de semaine à cause justement des orages. Les Américains prennent zéro risque, vous savez, avec ça. Et donc ce soir à 21h, c'est Guy Stéphan qui sera sur le banc des Bleus à la place de Didier Deschamps, deuillé par le décès de sa mère.
J'ai la sensation que je suis pas à ma place. J'ai une pensée très forte, évidemment, pour Didier et sa famille, moi et l'ensemble du staff et les joueurs. J'ai beaucoup d'échanges avec lui. J'en ai eu encore il y a quelques minutes. Ça sera le cas jusqu'au match. Je vais m'efforcer de rendre une situation qui est difficile. Je vais m'efforcer de la rendre la plus normale possible.
Alors les Bleus veulent gagner ce soir pour finir premier de leur groupe. Au minimum, il faut faire un match nul. Ils veulent rester en fait sur la côte est des États-Unis pour la suite de la compétition. États-Unis, tiens, qui ont perdu cette nuit 3-2 contre la Turquie avec un but à la dernière minute. La nuit prochaine, dans la foulée des Bleus, à 5h du matin, il y aura le match entre l'Égypte et l'Iran qui a été désigné comme étant le match des fiertés, impliquant donc ces deux pays qui répriment l'homosexualité. Les festivités sont prévues à Seattle où aura lieu la rencontre. Et Xavier Grimaud pour RMC s'appelait ni aux Égyptiens ni aux Iraniens.
Oui, pour les deux fédérations, être associé à ce match des fiertés est une provocation. Les deux pays s'en sont vertement plaints. Mahmoud Essa, les journalistes pour le média égyptien Yal Akora.
Ce n'est pas légal, on a un problème avec ça. On fera tout ce que l'on peut pour laisser l'histoire de fierté loin de nous. On ne laissera rien qui puisse encourager ça.
Away from us. La gêne est la même pour les supporters égyptiens.
Je pense que tout le monde veut surtout penser avoir un bon match. On se concentre sur le sport et pas sur les autres sujets.
Le comité d'organisation, lui, se défend. Les célébrations autour de ce match étaient prévues de longue date, bien avant de savoir quelles équipes s'affronteraient. À Seattle, le dernier week-end de juin est une grande fête des fiertés depuis 50 ans, rappelle Eda McClendon, la vice-présidente.
Je pense que c'est une opportunité d'amener de la visibilité aux fans égyptiens et iraniens, de montrer à quoi ressemble une autre culture. Un méga événement, comme une Coupe du Monde, c'est ce qui rassemble le monde en y célébrant l'inclusion pour unir au-delà de l'équipe qu'on supporte.
Et dans les tribunes, les drapeaux arc-en-ciel seront autorisés aux côtés de ceux de l'Iran et de l'Égypte, laissant craindre quelques tensions.
Et la nuit prochaine, on reverra aussi l'Espagne contre l'Uruguay dans une ambiance très latine, puisque ce match aura lieu au Mexique. Tiens, d'ailleurs, l'Espagne et le Mexique profitent de l'occasion pour se réconcilier après des années de brouilles indifférentes autour de la conquête espagnole de l'Amérique. Voilà aussi à quoi sert la Coupe du Monde.